Bien, je suppose que cette dernière partie est difficile, surtout après le repas. Je vais essayer de pas trop vous endormir. Mais en tout cas, je pense, enfin, du moins j'espère pouvoir rebondir sur ce que j'ai déjà entendu ce matin et qui est effectivement le souci, certes de la scolarité, mais du sujet dans sa globalité et du travail avec les familles. Donc effectivement, l'internat, pour moi, dans un premier temps, ce mot, me paraissait avoir déjà une connotation anciennement plutôt négative et qui, au fil des années, se positive, écartant peu à peu l'idée de mise à l'écart ou de répression. Pourtant, cette question induit l'idée de la séparation avec le milieu familial, mais cela introduit aussi la question du lieu que je nommerais espace transitionnel. Celui-ci ne serait ni tout à fait un dedans, ni tout à fait un dehors. J'illustrerai par la suite cette hypothèse en le reliant avec la théorie de Donald Winnicott, que certains connaissent peut-être, que l'on connaît par le biais de l'objet transitionnel. Au-delà de ces deux aspects, il y a aussi réussir. Réussir à grandir, réussir à apprendre, mais il y a aussi réussir à prendre en charge un sujet pour le guider, le rassurer, lui ouvrir des portes. C'est bien une aventure à plusieurs et pas seulement celle de l'individu seul. Cette aventure est bien sûr déjà commencée, mais cette nouvelle étape s'annonce quelquefois plus complexe. L'âge à laquelle elle survient est une étape charnière, souvent l'adolescence, étape que l'on sait difficile à gérer, tant pour celui qui la traverse que pour son environnement. Et l'on verra que justement, les séparations vécues auparavant ont un impact sur la façon d'être au monde, d'avoir envie d'apprendre et d'avoir envie de grandir. Alors apprendre, je ne sais pas si c'est réussir. Mais c'est en tout cas réussir à se libérer des pulsions gouvernées par l'attachement à la mère. C'est donc renoncer à cet amour intériorisé pour le transformer sur des objets extérieurs que l'apprentissage effectuera. C'est aussi par ce biais que l'enfant montre à sa mère qu'il continue à l'aimer. L'enfant déroge à la toute-puissance pulsionnelle pour investir l'extérieur. Cette épreuve nouvelle, mais nécessaire sur le mode de la séparation, permettra à l'enfant d'éprouver sa capacité à penser en liant des événements les uns aux autres. Cela lui permet de raisonner, déduire, construire, se remémorer, enfin d'apprendre. La séparation est de fait organisatrice, puisque le développement de l'enfant est en soi un processus de séparation, ce qui va lui permettre de construire son identité. On se confronte là à l'histoire personnelle du sujet. Comment a-t-il vécu, comment a-t-il surmonté ses expériences de l'enfance, de séparation de l'enfance? Si ces situations ont été traversées de façon à ce que l'enfant acquiert une certaine sécurité, les situations d'anxiété, de perte, mèneront à son enrichissement, à des créations futures. La séparation est donc productrice de sens. Et dans la question qui nous préoccupe aujourd'hui, elle doit garder cette production de sens. Elle doit continuer à mettre en relation un dedans et un dehors, mettre en construction un lien qui permet justement l'individuation. Comme le langage fait lien entre la mère et l'enfant, cette adresse à l'autre donne à chacun cette position d'individu séparé. Mais qu'en est-il à l'adolescence? À l'adolescence, souvent, le jeune veut partir, comme si l'espace qu'il mettait entre lui et ses parents venait signifier son désir d'individuation, de différenciation. Or, il faut distinguer le moment de séparation qui s'inscrit dans le réel, qui est mis en acte, et le travail de séparation qui demande du temps, un travail psychique, de représentation et d'élaboration. Et ce temps-là est indissociable du temps et des temps de séparation. Chaque individu a des attentes différentes. Pour certains jeunes, ils souhaiteraient que les parents le retiennent et puissent accepter et affronter toute l'agressivité dont ils ne manqueront pas de faire l'objet. D'autres auront nécessité de se tourner vers d'autres adultes, refusant en bloc tout ce qui vient des parents. Ceux-ci sont tout aussi attachés à leurs parents que les précédents, voire plus. Attachement si fort qu'ils ne peuvent que s'arracher de cette relation, être dans la rupture, puisque se séparer est intolérable. Les parents deviennent objets de haine et l'internat pourrait venir en tiers pour aider les uns et les autres à passer cette étape difficile. Mais il est aussi compliqué pour les parents d'accepter que leur enfant, devenu grand, puisse grandir sans leur regard. Quelquefois, à trop vouloir porter les ados, à trop espérer et anticiper pour eux, on crée insécurité, agressivité, par retour, un sentiment d'échec qui ancre le temps présent pour se défendre des incertitudes du futur. Le travail, le métier, l'objectif ultime d'une forme de compétition. On sait que dans ce domaine, le milieu social infléchit les chances de l'enfant. La compétition scolaire est à mettre en parallèle avec la concurrence du monde adulte. De ce fait, des parents ont une grande anxiété par rapport à la réussite de leur enfant, à tel point qu'on peut y voir là aussi un facteur d'échec. La pression est souvent vécue comme une répression, une restriction de leur liberté d'action qu'impose la discipline du travail. Les ados sont encore plus sensibles aux restrictions qui leur sont imposées sur le plan de l'imaginaire. L'entrée dans une filière, une orientation leur apparaît comme un rétrécissement du champ des choses possibles. Pour se sentir intégré et unifié, le jeune doit ressentir une continuité progressive entre ce qu'il est devenu au cours de l'enfance et ce qu'il pense devenir dans le futur, entre ce qu'il pense être et ce qu'il sait que les autres perçoivent et attendent de lui. L'identité, c'est un ensemble de stratégies, d'opinions, de représentations sociales qui se trouvent à la jonction entre projet et valeur. Le projet, pour le sujet, c'est la direction qu'il souhaite imprimer à sa vie. Les valeurs reflètent ses ressources socio-culturelles potentielles. La construction de son identité psychosociale implique, pour lui, de définir son appartenance à un ou plusieurs groupes sociaux et de se projeter dans l'avenir. La projection est l'expression d'une intentionnalité personnelle, d'une maîtrise de son avenir. Il y a un long chemin à parcourir avant d'arriver à cette maturité et pour certains, des écueils tels que la différence de culture vient encore compliquer ce processus. En effet, l'immigration interroge les origines, la généalogie, les filiations, les valeurs qui portent l'individu dans la collectivité. Le déplacement spatial qu'elle entraîne, cette immigration, mobilise les angoisses primitives du tout premier déplacement, celui de l'enfant qui se détache de sa mère pour faire ses premiers pas. Cette séparation n'est pas forcément sentie comme une liberté, mais aussi comme l'abandon de l'être protecteur. Premier pas vers la différenciation et engagement dans la construction de l'identité. Qui suis-je ? Celui que je crois être ou celui que l'autre dit que je suis ? C'est en tout cas le regard de cet autre qui me renvoie à moi. Quand on vit en société, la question est semblable. Qui suis-je dans le groupe ? On se définit à travers ce groupe. La question de l'identité, en général, rejoint aussi celle de l'identité culturelle. L'enfant a bien sûr été à l'école, il s'est largement assimilé, je ne sais pas si c'est le bon terme, à cette nouvelle culture, mais à côté de l'école, il est également soumis à l'influence de sa famille. Et celle-ci a réagi à la transplantation en idéalisant souvent le pays perdu. Elle fait tous ses efforts, surtout à travers la mère, quelquefois plus traditionnaliste que le père, pour maintenir dans l'enfant les valeurs de la culture native. L'enfant se trouve ainsi pris entre deux cultures antagonistes, celle de la famille et celle de l'école. L'expression culturelle est portée par le récit des traditions, elle s'éprouve dans la réalité des actes de la vie quotidienne. C'est à la fois l'expression de la vie sociale et l'ensemble des phénomènes sociaux propres à un groupe humain. Mais la culture est un mécanisme continu de composition, de décomposition et recomposition dynamique des identités et des groupes. Si pour certains, l'adaptation culturelle est difficile, voire impossible, car de mauvaises conditions d'adaptation culturelle les rendent impuissants à reconnaître une extériorité socialisée différente de leur intériorité psychique, d'autres, par contre, préfèrent s'identifier au modèle valorisé socialement ou valorisé par leur père, surtout si l'identification avec les parents est dévalorisante pour des raisons essentiellement économiques. Néanmoins, devant la bipolarisation de son identité qui puise dans deux champs référentiels distincts, l'enfant d'immigré est d'autant plus capable d'intégrer des systèmes de valeurs différents en une nouvelle structure identitaire qu'il se sentira accepté et valorisé par la société, mais aussi accompagné par sa famille. Des termes comme insertion, socialisation, assimilation ou acculturation prennent une dimension particulière dans l'action formative, éducative. Évoquer l'assimilation ou la socialisation, c'est considérer que la personne doit faire un effort particulier pour assimiler notre culture et peut-être laisser de côté sa propre culture pour en acquérir une autre. Comme je le soulignais plus haut, la culture n'est pas un produit fini. On peut l'appréhender de deux façons. L'interculturalité et la transculturalité. Pendant longtemps, l'enseignement de la civilisation n'a été envisagé qu'à un sens unique. Et il appartient à chacun que le travail sur la culture implique un échange, c'est-à-dire à la fois un travail interculturel, mais aussi une réflexion sur les contenus que l'on véhicule et les supports proposés. Alors, on aborde la question de l'internat, surtout au moment de l'adolescence. Alors, je me suis dit, parce que c'est un moment de crise psychique, une nouvelle séparation qui s'organise et qui se met en scène, parce que l'adolescent est à ce moment-là plus en capacité d'émettre son propre souhait. Il est vrai qu'on peut imaginer que plus jeune, le cocon familial est logiquement à même de répondre aux besoins de l'enfant, tant sur le plan affectif que sur le plan de la socialisation. Toutes les familles n'offrent pas ce cocon, mais les internats doivent-ils répondre à cela? À l'heure où la question de la parentalité est souvent au centre des préoccupations, il est important de la favoriser en ne déresponsabilisant pas les familles et en redonnant une place, un statut au sujet qui a du mal à se situer. Le risque serait de mettre en tension une rivalité entre l'institution et les parents. Ceci peut avoir une répercussion sur l'état des relations. Les parents peuvent se sentir jugés comme défaillants, tant dans la réalité où ils sont paralysés et ont l'impression de se débattre, qu'en termes d'image, où ils seraient montrés comme mauvais, ou en tout cas dans l'incapacité de procurer le nécessaire à leur enfant. Je n'évoque ici que des cas assez classiques. Il est bien évident que pour certains, l'adolescence ne vient que réactiver des conflits non résolus bien plus précoces ou bien des difficultés d'enculturation, mais dans ces cas de figure, l'internat ne réglera qu'une partie des problèmes et qu'il me paraît important que ne se retrouvent pas dans un internat que les jeunes qui ont des problèmes. L'internat a certes un rôle dans la mesure où c'est une suppléance parentale. Mais on voit bien que la question du choix est fondamentale et différencie même les établissements. Choisir d'aller en internat, ce n'est pas être placé dans un internat et la mission est différente. L'internat aborde la question de la socialisation et de la subjectivation. L'internat propose à l'adolescent de faire l'expérience d'être sujet tout en répondant aux besoins d'apprentissage de celui-ci. On voit bien que ces lieux ne peuvent être et ne doivent pas être que de simples lieux d'hébergement. Il est nécessaire d'accueillir le jeune dans sa globalité en tant que substitut parental et d'avoir un projet comme une famille porte un projet pour son enfant. En effet, l'attente, l'espoir, le désir pour l'autre fonde l'enfant et lui permet d'acquérir une bonne estime de soi. Celle-ci est l'ingrédient nécessaire pour accéder au savoir. Le savoir, c'est une relation au sens, mais c'est aussi une relation avec soi-même. Alors pourquoi l'internat, un espace transitionnel nécessaire avec un point d'interrogation, bien évidemment. C'est un mot qui a la même origine que transition, transitoire, venu du latin transitio, qui signifie passage. Nous devons ce terme transitionnel, comme je le disais au début, à Donald de Winnicott, qui est plutôt relatif à l'objet transitionnel et qui est surtout utilisé dans les études relatives au fonctionnement psychique. Alors pour expliquer ce phénomène, ce concept de transitionnalité, je m'appuierai donc sur cet objet transitionnel. Alors l'objet transitionnel, qu'est-ce que c'est pour un enfant? C'est le doudou, que tous les parents connaissent, le doudou du petit enfant, qui peut être une peluche, un bout de drap ou autre. C'est le premier objet possédé par le bébé. À ce moment-là, celui-ci ne le considère pas tout à fait comme faisant partie de lui-même, mais pas non plus tout à fait comme appartenant à l'environnement. C'est pourquoi on l'appelle transitionnel. L'enfant a la capacité de créer, imaginer, inventer, concevoir un objet et d'initier avec lui une relation affectueuse. Mais à quoi sert-il ? C'est un peu un objet de sevrage, il permet à l'enfant de transférer ses sentiments, mais aussi d'effectuer à travers lui son premier choix à long terme, tant sur son aspect que sur son petit nom qu'il va lui donner. Cet objet est en fait une représentation symbolique de la transition du petit enfant en totale communion avec sa mère vers la séparation de cette union qui deviendra plus relationnelle. Il est important pour grandir, mais il ne comble pas les carences. En revanche, il constitue un bouclier à toute forme d'angoisse de séparation. Mais alors, quel lien avec cette ère transitionnelle? Des psychanalystes, dont je vous ferai pas grâce de citer le nom, ont mis en évidence la constitution du sujet, de l'édification d'une limite, d'une séparation, d'une frontière entre le monde extérieur, celui de la réalité concrète, et le monde interne, fait d'affect et de désir. Il existe en permanence des conflits sur cette ligne frontière, d'où l'importance de l'édification et la solidité de celle-ci, pour l'édification, la construction du sujet. Winnicott, j'y reviens, définit cette ère intermédiaire d'expérience qui n'est ni le dedans, ni le dehors, comme l'ère transitionnelle. L'internat viendrait en lieu et place de cet objet transitionnel. Le sujet va, selon l'expression de Winnicott, vivre, c'est-à-dire utiliser des éléments de son environnement tout en devenant acteur dans un monde où la créativité, c'est la vie même. Il s'appuiera sur ce déjà-là pour ensuite créer, c'est-à-dire affirmer son autonomie, son existence particulière. Ni dedans, ni dehors, ce tiers exclu serait cet espace où le sujet pourrait exister, jouer, rêver, penser. Ce serait une ère intermédiaire d'expérience, une ère, une frontière où se passeraient des échanges et non plus des combats, un lieu où l'environnement culturel dans son sens le plus large trouverait sa place, ouvrant sur l'humain dans son passé et son présent, culture qui enrichit sans étouffer, qui permet le mouvement, la création, la vie, à méditer.